réplique ce que les paysans ont à nous apprendre avec Hubert Charuel et Vincent de l'Argilière. Fils et petit-fils d'éleveurs, diplômé de la FEMIS, Hubert Charuel a réalisé Petit paysan. C'est son premier long métrage et c'est un film absolument bouleversant. Interrogé dans le cadre d'un documentaire diffusé sur France 5, Vincent de l'Argilière, qui est éleveur et producteur de lait, déclarait en substance que jamais l'objectif de rentabilité ne le ferait consentir à choisir la voie de l'élevage industriel, car lorsqu'au printemps, il sort ses vaches enfermées tout l'hiver, celles-ci, folles de joie, gambadent comme des petites filles dans le pré. « Ce spectacle de la danse des vaches, disait M. de l'Argilière, n'a pas de prix. » Par l'entremise d'Anne Rosenscher, alors journaliste à Marianne, je suis allé, au jour J, dans la ferme de M. de l'Argilière. Et cette danse des vaches, je l'ai vue, de mes yeux vus. D'ordinaire, je remercie mes hôtes une fois la conversation terminée. Aujourd'hui, je voudrais, d'entrée de jeu, dire à Vincent de l'Argilière et à Hubert Charuel combien je leur suis reconnaissant d'avoir surmonté leur réticence ou leur crainte et d'avoir accepté mon invitation alors qu'ils ne sont pas du sérail, qu'ils n'appartiennent pas au milieu intellectuel et qu'ils n'ont pas plus l'un que l'autre l'habitude des débats radiophoniques. Et que les choses soient claires, vous ayant choisi, messieurs, en tant qu'individus et non en tant que militants ou porte-parole, je ne chercherai pas avec vous à défendre une cause, mais à explorer un monde. Et aussi à parler d'art et de beauté. Car je voudrais commencer par votre film, Hubert Charuel. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous décrire la première scène ?
Alors, la première scène, en fait, on a un écran noir et puis on entend des bruits de respiration, la respiration d'un humain. Et puis après, il y a une respiration qui est un peu plus grave, un peu plus grasse aussi. Mais on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, on a un plan de quelqu'un qui se réveille. Voilà. La pièce est assez obscure. Il se lève et en fait, en se levant, on découvre que à côté de son lit, il y a une vache. Voilà. Donc il se lève, il met ses bottes dans sa chambre directement. Et là, on constate qu'il y a une deuxième vache en fait dans la chambre. Il sort de la pièce, il traverse son salon et en fait là, sa maison est complètement remplie de vaches. Il y en a partout, il est obligé de les pousser, il est obligé de passer entre, c'est assez compliqué, comme s'il remontait une marée voilà, d'animaux. Et puis il arrive dans la cuisine où il se fait un café, et là il y a une grosse tête de vache juste à côté de lui. Il se fait couler son café, et là on entend un bruit, voilà, une sonnerie, et en fait le personnage se réveille. C'était la première séquence.
Oui, mais donc à un moment donné, on le voit avec des vaches dans sa maison.
Oui, il y a des vaches partout dans la maison.
Il y a des vaches partout dans la maison. Alors pourquoi ce rêve ? Pourquoi avoir choisi cette première scène extrêmement frappante, saisissante, il faut le dire ?
Pour moi, cette séquence, elle était hyper importante parce qu'elle permettait de présenter le personnage tout de suite. Et on rentrait tout de suite dans la problématique, c'est-à-dire... les vaches sont partout, elles sont partout dans sa vie, y compris dans sa tête, y compris dans sa maison, y compris dans ses rêves. Donc voilà, pour moi, quand on est éleveur, le rapport qu'on a à ces animaux, c'est justement que les animaux prennent toute la place dans la vie, en fait. Donc ça permettait d'aborder ça.
Mais alors, justement, les animaux domestiques se divisent en animaux de rente, animaux familiers. Ouais. Les premiers sont source de revenus pour leurs propriétaires, tandis que les seconds sont plutôt facteurs de dépenses. Donc il y a une différence. Simplement, domestique, ça vient de domus. Domus, c'est la maison. Donc, normalement, l'animal domestique, c'est celui qui peut entrer dans la maison. Dans les fermes anciennes, c'était possible. Mais aujourd'hui, il y a une dissociation entre le monde des hommes et même le monde des bêtes d'élevage. Elles ne sont... Donc là, tout d'un coup, ça devient des animaux domestiques au sens ancien. Et donc, c'est ça qui est très beau. C'est-à-dire, ils sont dans la maison, alors que ce sont des animaux de rente et qu'ils ont des étables. Et là, et vous avez raison, ça souligne l'obsession et l'amour de ce personnage pour ses bêtes. Hein, c'est ça.
Oui, exactement. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que, enfin, en effet, enfin, moi, du coup, ça m'évoque pas mal de, pas de souvenirs, en tout cas, de choses que mes grands-parents pouvaient me parler. C'est-à-dire aussi d'avoir parfois la maison et puis la grange juste à côté. Et en gros, c'était la présence des animaux à côté de la maison qui permettait de réchauffer toute cette maison, en fait. Donc, en effet, ça.
Ah oui, quand même. Donc, il y avait déjà cette familiarité, cette intimité. Vous m'avez dit, monsieur de Largillière, vous avez donc une ferme dans l'Oise, oui, que j'ai visitée, et nous y reviendrons. Mais quand je vous ai invité, vous n'aviez pas vu le film, oui, et vous apprêtiez de toute façon à aller le voir. Oui. Donc depuis lors, vous l'avez vu. Oui. Comment avez-vous réagi à cette scène et au film dans son ensemble, Vincent de Largillière?
Oui, donc effectivement, après votre appel, j'avais prévu d'aller voir le film le lendemain. Donc c'était prévu. C'est un film qui a fait beaucoup parler dans le milieu agricole, le milieu de l'élevage. Et dans tous mes voisins éleveurs ont entendu parler de ce film-là, dans la presse agricole même spécialisée. Donc c'était très, très populaire. Donc moi, j'ai regardé le film avec attention, surtout après votre appel. Et je me suis retrouvé dans beaucoup de choses, dans tous les thèmes qui ont été abordés par le film. Je me suis retrouvé dans la vraie réalité, de ce que je vis sur la ferme.
Oui, alors justement, donc allons au-delà du rêve. Mmh. Ce film raconte une histoire inspirée, vous le dites vous-même, de l'épidémie de la vache folle, alors qu'il ne s'agit pas de l'épidémie de la vache folle, il s'agit d'une autre maladie, mais simplement, en effet, ce paysan est confronté à ce problème. Certaines de ses vaches tombent malades, cette maladie se signale par des saignements, donc pas par des tremblements, comme la vache folle. Simplement, le principe de précaution est le même. Si une vache tombe malade, le troupeau entier est abattu. Et tout au long du film, il essaye de sauver son troupeau en dissimulant la mort des vaches infectées par la maladie. C'est bien ça?
C'est exactement ça.
Hubert Charuel, ouais, ouais. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce thème?
Alors justement, par rapport à la vache folle, en tout cas à l'ESB, parce qu'une fois je me suis fait reprendre par un vétérinaire qui m'a dit il faut pas dire la vache folle, c'est mal vu, le vrai terme c'est l'ESB.
Encéphalite spongiforme bovine.
Exactement. Mais en tout cas, moi c'était ça qui m'intéressait et le point de départ, moi j'avais une dizaine d'années en tout cas à l'époque justement de l'ESB et je me souviens vraiment de ce climat ultra anxiogène, tout simplement parce que c'était une maladie qu'on ne comprenait pas. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres, on sait ce que c'est que la brucellose, la tuberculose, enfin voilà, des maladies très identifiées, et l'ESB c'était tout nouveau. Nous on a beaucoup parlé aussi avec ma co-scénariste, avec des vétérinaires qui disaient c'était ça le problème, et d'où le climat de paranoïa, c'était que personne ne savait ce que c'était que cette maladie, et d'habitude les paysans nous appellent, nous les vétérinaires, pour qu'on les rassure, ils disent là, on ne pouvait pas les rassurer. Et c'est vrai que du coup, ce climat de paranoïa, il était partout. Et moi, je me souviens très bien du jour où ma mère, on regarde, le premier cas d'ESB était à 30 km de chez mes parents. Ils ont parlé aux informations. Ma mère m'explique ce que c'est que le principe de précaution, tout en me disant, je crois que si ça arrive chez nous, je me suicide. Donc je pense que, on va dire, le vrai point de départ du film, ça, traumatisant pour moi, qui donne l'origine à la fiction, en tout cas, c'est ça.
Oui, d'ailleurs, le personnage est constamment stressé. Il y a un moment d'ambiguïté que vous levez dans une interview parce que le personnage central, merveilleusement joué, je dois dire, le paysan, le petit paysan, a des boutons dans le dos. Il se gratte le dos et on se demande s'il n'est pas gagné lui-même par l'épidémie. En fait, vous le dites, c'est le stress épouvantable qui est le sien devant la perspective d'avouer ce qui se passe et de voir son troupeau totalement exterminé.
Évidemment qu'il y avait la symbolique aussi de lui qui se fait contaminer par le problème. Et voilà, évidemment qu'il y a une dimension aussi symbolique, un peu métaphorique là-dedans. Mais évidemment qu'il y a ça. Et puis ça permettait aussi pour moi, enfin j'ai l'impression que la psychosomatisation, c'est quelque chose qui... Le stress, enfin je dis souvent le stress a gagné les petites vallées. Mais il y a quelque chose où moi, je vois des amis de mes parents, ça fait 25 ans qu'ils prennent des antidépresseurs, ils ont du psoriasis, ils sont stressés par le rythme qui s'impose et qu'on leur impose aussi. Donc ça me permettait un peu d'aborder un peu tous ces sujets-là aussi.
Est-ce que vous avez reconnu votre propre angoisse dans ce film, Vincent de l'Argilière ?
Sur certains aspects, oui. Moi, je rejoins les propos de M. Charouel sur le, au moment de l'ESB. À l'époque, j'avais une vingtaine d'années, donc j'ai pas connu, j'étais pas installé en tant qu'éleveur, mais je me souviens très bien que c'était un peu la maladie de la honte, et on n'en parlait pas. Entre éleveurs, on disait, lui, il a peut-être mal nourri ses animaux, pourquoi il a mal nourri ? Donc il y avait un climat entre éleveurs de méfiance, il y avait un sentiment de honte derrière. Oui, je rejoins tout à fait vos propos.
Cette maladie venait du fait qu'on avait rendu, justement, oui, au nom d'un principe de calcul, les vaches quasiment carnivores. Voilà. C'est-à-dire, on leur donnait, de la nourriture à base de viande.
De la farine de viande qui la était insuffisamment, dont la température n'était pas montée assez élevée pour tuer les prions. Quoi,
et maintenant, on ne leur donne plus de la farine de viande.
Non, maintenant, c'est interdit.
C'est totalement interdit. Mais que pensez-vous, rétrospectivement, l'un et l'autre, de l'application si rigoureuse du principe de précaution? Est-ce qu'il se justifiait? Est-ce qu'il n'y avait pas une forme aussi de fanatisme et de cruauté inutile, Vincent de l'Argilière?
Peut-être qu'effectivement qu'il y avait un sentiment de... Enfin, ça allait peut-être trop loin, dans la mesure où on abattait même des vaches déclarées saines. Mais le souci, c'est qu'il fallait à l'époque rassurer le consommateur. Et pour rassurer le consommateur, il ne faut pas faire de sentiments, malheureusement. Il faut abattre tout le troupeau.
Oui, je vous pose la même question, Hubert Charouel, parce que dans votre film, donc, le héros a une sœur, merveilleusement jouée par Sarah Giraudeau, qui est vétérinaire. Vous êtes fils unique, mais lui, il a une sœur, il y a une très belle complicité, un peu abrupte, entre les deux personnages. Celle-ci, finalement, l'aide quand elle voit à quelle manigance il est réduit, mais on a d'autres personnages qui incarnent, en quelque sorte, le principe de précaution et qui, eux, sont d'une arrogance et d'une brutalité extrême. Est-ce que c'est pas une manière de dire qu'il y a quelque chose de démesuré dans l'application de ce principe, Hubert Charouel?
Oui, il y a quelque chose de démesuré. Après, alors, juste sur la représentation des personnages, ce qui est particulier, c'est que moi, je me suis toujours posé la question de me dire, est-ce qu'on les représente pas de manière un peu trop froide, un peu trop rigide, en tout cas. Là, j'ai fait beaucoup de débats avec des éleveurs et des vétérinaires aussi à travers la France. Et donc eux, souvent, mais bon, évidemment, leur point de vue est plutôt subjectif, mais ils disent non, vous êtes en dessous de la vérité, ils sont encore beaucoup plus durs que ça. Donc bon, mais en tout cas, évidemment qu'il y a une espèce de dénonciation, en tout cas, de choses. Alors, comme moi, je disais, finalement, moi, l'idée, elle est venue aussi quand j'avais une dizaine d'années. Donc je pense que c'est un peu aussi le regard d'un enfant là-dessus, à se dire pas juste, en fait.
Ah oui, c'est ça.
C'est pas juste ce qui arrive. Mais par contre, en effet, il y a eu beaucoup d'abattages totaux qui étaient faits parce qu'il faut éradiquer le problème avant que ça devienne un problème majeur et que ça puisse atteindre le consommateur qui a peur et donc qui fait baisser. Enfin voilà, en tout cas, il n'y a plus de consommation. Évidemment qu'il y a eu des choix qui ont été parfois faits, en tout cas bien plus d'un point de vue économique que d'un point de vue, en tout cas, sanitaire.
Même sanitaire, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on anticipait la réaction du consommateur. Exactement. On ne voulait pas le paniquer, et donc on lui sacrifiait ses bêtes, alors même que peut-être on aurait pu faire un tri un peu plus humain, bien si sûr. Je peux dire.
Et même j'ai rencontré des éleveurs qui me parlaient d'un autre type de maladie. Alors, je ne sais plus justement si c'était la tuberculose ou la brucellose, où ils nous disaient, sur un département, ils étaient sur l'abattage total et le département frontalier était juste sur l'abattage du bovin malade. Ils disaient, imaginez la souffrance de la personne qui voit disparaître son troupeau quand en gros son voisin, lui, n'a qu'une bête d'abattue et se dit, mais là, du coup, il y a quand même quelque chose qu'on ne comprenne pas bien, en tout cas, quoi.
Ah oui, voilà. Mais le film se termine tragiquement, puisque il ne peut plus aller, il ne peut plus ruser le personnage. Il a dissimulé deux cas de maladie mortelle, il est trop tard, il doit consentir à voir son troupeau exterminé. Il avait choisi de prendre chez lui, là, et ça c'était plus un rêve, c'était dans le domus, dans la maison, d'accord, un petit veau, ce qui est d'ailleurs absolument bouleversant, et il est obligé d'abandonner ce veau, c'est-à-dire qu'au lieu de le laisser tuer par les autres, c'est lui qui lui inflige la piqûre mortelle, et il se retrouve sans rien à la fin du film, au point même qu'on se demande s'il va survivre à cet événement, à cette catastrophe. On le voit, je crois, dans la dernière image, regarder une vache et c'est tout ce qu'on sait de lui. Donc on peut penser qu'il ne choisit pas la voie du suicide alors qu'il est complètement dévasté. C'est bien ça, Hubert Charvel.
Oui, exactement. C'était, pour moi, c'était le plus important. C'est-à-dire que, bon, il y a plusieurs choses à travers ça, mais déjà, tout de suite, il y avait l'idée de se dire, bon, moi, pendant, j'ai montré quelqu'un qui souffre, qui passe beaucoup de temps à souffrir aussi dans ce film, et je me disais,
il souffre tout le temps.
Voilà. Et je me disais, je peux pas terminer, même moi, vis-à-vis du milieu d'où je viens, terminer sur une note aussi sombre, en fait. Je me disais, si à la limite, j'ai pas fait un film à message, mais s'il y a juste une chose que je peux laisser aux éleveurs, c'est juste, non, je voulais pas finir le film avec quelqu'un au bout d'une corde, en tout cas.
Oui, non. Et comment vous avez réagi à cette fin, Vincent Delorgilière?
Moi, je reconnais que la fin du film, c'est peut-être cette partie-là qui m'a le plus interloqué. Bon, à la fin du film, quand il y a la scène où la sœur donne la seringue pour euthanasier le veau, on a l'impression, moi, j'ai eu cette impression-là que il y a un choix où l'éleveur, il a le choix entre est-ce qu'il va en finir avec la vie ou est-ce qu'il... Et en fin de compte, on voit qu'il redonne le veau et qu'il choisit la vie et qu'il choisit d'euthanasier le veau. Et cette scène-là, je me suis toujours posé la question si ça avait un lien, quoi.
Alors, ce qui est particulier, c'est que cette séquence, on ne l'a pas écrite de cette manière, en fait. C'était pas écrit, on se dit, pour qu'on se dise justement, ah, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui qui va se faire l'injection? Mais aujourd'hui, quand je vois le montage du film, c'est, voilà, quand on l'écrit, on pense pas forcément à ça. Mais maintenant, quand je vois le film, ça me paraît évident, et vous êtes pas la seule personne à me parler de ça. Je pense qu'on pense ça, tout simplement, puisque le suicide dans le monde agricole aujourd'hui, c'est un thème en soi, en fait, ouais. Et qu'on est tellement, on en a tellement entendu parler aussi, même si c'est, voilà, quelque chose qui est parfois encore caché, que, en tout cas, ça a marqué la conscience des gens, et que, du coup, on ne peut pas s'imaginer autre chose que, genre, à quel moment il va se suicider, en fait. Même si, en tout cas, moi, c'était, pour moi, le suicide dans le monde rural, c'est un sujet en soi.
Et oui, c'est ça. Voilà. Vous n'aviez pas ajouté le suicide à la catastrophe que vous montriez. Voilà. Quoi. C'était trop.
Exactement. Et parfois, justement, je parlais avec certains éleveurs où il y a un peu des amalgames, et ils me disaient, mais c'est pas les maladies qui poussent les agriculteurs au suicide. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, c'est pour ça que le film n'était pas cette histoire-là. Et voilà,
qui ne se suicide pas. Alors, venons-en à vous, à votre exploitation, Vincent Delorgilière. Donc, la danse des vaches, j'ai découvert cette expression que vous employez dans un documentaire de France 5 qui était sur l'élevage intensif et contre l'élevage intensif industriel, c'est-à-dire ces animaux enfermés qui ne voient jamais ni le jour ni l'herbe.
Oui.
Et vous preniez, et vous incarniez même, comme le petit paysan, un autre type d'élevage.
Oui.
Alors qu'est-ce que ça signifie pour vous, le choix qui a été le vôtre?
Moi, je suis installé dans une petite région dans le pays de Bray, dans une région herbagère, bocagère, qui a vocation à faire de l'élevage. J'ai toujours vu mes grands-parents, mes parents, avec les animaux qu'ils allaient au pré, qu'ils allaient dehors. Et je n'ai jamais pu concevoir qu'une vache reste en bâtiment toute l'année. Donc, j'ai toujours fait le choix de mettre mes vaches au pâturage.
Voilà. Et donc, ce choix, vous l'assumez, même si un autre type d'élevage se révélait plus rentable financièrement, vous ne choisiriez pas cette voie. Et pourquoi?
Pourquoi? Pour moi, je ne peux pas concevoir qu'une vache reste dans un bâtiment toute l'année. Au niveau de son bien-être, j'aime mes animaux, j'aime mes vaches. C'est un plaisir de les voir à la mise à l'herbe quand vous êtes venus. C'est un plaisir de les entendre brouter. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à les voir dans les prés. Et je ne pourrais pas concevoir de les voir, encore une fois, manger de l'alimentation de l'ensilage toute l'année avec des compléments qui viennent de très loin, du soja, des aliments comme ça. Je préfère avoir mes vaches chez moi, donnent très peu de lait par rapport à un système intensif. Mais malgré tout, le système, financièrement, je m'en sors quand même. Même si elles donnent pas beaucoup de lait, par rapport au système industriel, financièrement, je m'y retrouve.
Et c'est le cas aussi pour votre petit paysan, me semble-t-il. Mais votre petit paysan a lui-même des parents. Il est fils de paysan. Et alors, ce qui est très beau dans votre film, Hubert Charvel, c'est que vous faites jouer vos parents, c'est-à-dire votre père, je crois, joue votre père. C'est pas votre mère.
Le père du personnage, oui.
Oui, pardon. Votre père joue le père du petit paysan, excusez-moi, oui, vous avez raison. Votre mère joue un autre rôle, Il est vrai que la mère est une la mère du film est une très 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 bonne actrice, mais votre mère est présente, donc il y a quelque chose d'une forme de piété. D'ailleurs, vous avez dit que c'est le film avec le regard d'un enfant. Vous avez été très marqué par cette déclaration de votre mère: si ça nous arrive, je me suicide. Et donc, ils s'inscrivent dans ces cette tradition là d'une forme d'élevage, et c'est cette forme d'élevage aussi que vous filmez.
Bien sûr.
À l'encontre de l'élevage industriel.
Oui, bien sûr. En effet, même c'est dans le titre, hein, c'est leur petit paysan. En effet, on est sur une petite exploitation. Après, c'est un tout petit peu différent de monsieur, puisqu'en effet, nous, on avait des vaches qui aussi se nourrissaient dans ce village. Alors, c'était pas que ça, mais c'était, comme on disait, c'était un petit troupeau, mais des vaches à haut potentiel, comme on disait. Donc,
c'est est-ce qu'elles sortaient?
Bien sûr, elles sortaient.
C'était juste. Elles n'étaient pas enfermées toute l'année.
Voilà, exactement. Non, justement. Elle passait pas mal de temps dehors quand même aussi. Donc voilà, évidemment, oui, c'est une petite exploitation.
Et puis, d'ailleurs, ce qui est aussi saisissant dans votre film, c'est que le petit paysan, donc, continue à donner des noms à ses vaches. Hein, elles ont des numéros, puisqu'elles en ont toutes maintenant à l'oreille, mais ils continuent à leur donner des noms. Donc ça veut dire que effectivement un lien existe entre lui et ses vaches, et il les traite les unes et les autres comme des individus. Et c'était vrai dans la ferme de vos parents aussi, ça?
Ah oui. Même lorsque ma mère est partie, en gros, quand mon père est parti à la retraite, ma mère est partie s'associer avec d'autres personnes, avec ses vaches. Donc elle est partie dans un plus gros troupeau, et c'est elle qui s'est un peu battue à dire: on va continuer à donner des noms aux animaux. Parce que ses associés, eux, avaient dit: mais non, ça c'est de l'histoire ancienne, on passe à autre chose, quoi.
Et vous, monsieur de l'Argilière, vous en avez 90, je crois.
Oui, 90 vaches, oui.
90 vaches, donc il est peut-être trop pour leur donner des noms, même.
Bon, pour des raisons pratiques, elles sont, et de toute manière, la réglementation, voilà. La législation fait qu'on est obligé de mettre un numéro. Mais après, la réglementation nous laisse la possibilité d'ajouter un nom aux vaches. Donc, par exemple, cette année, c'est l'année des haines. Hein, 2017, c'est l'année des haines. Donc, toutes mes vaches ont un nom, associé. Voilà, et certaines, après, il y en a certaines où on est plus proche d'elles, qu'on utilise plus. Mais c'est vrai que chez moi, elles ont tous un nom. Toutes les vaches ont un nom. Il y a Chouchoute, il y a Farine, il y a plein.
Mais que répondez-vous, monsieur de l'Argilière, à ces vétérinaires, à ces scientifiques qui vous disent que dans la ferme des 1000 vaches ou dans les fermes plus petites où les vaches sont enfermés, oui, eh bien, leur bien-être est assuré, puisqu'il y a des instruments de mesure, oui, qui vous le disent. Oui. Donc, vous êtes très soucieux du bien-être de ces bêtes. Oui. C'est pour cela que vous aimez les voir sortir. Oui. Et on vous répond, oui, mais il n'y a pas de véritable problème de cet ordre dans ces fermes de l'élevage industriel.
Oui, tout à fait. Moi, à titre personnel, je suis allé visiter la ferme des 1000 vaches. Effectivement, en tant qu'éleveur, j'ai vu les vaches qu'ils avaient beaucoup d'espace. Ils avaient à manger, ils ont une ration équilibrée. Ils ont toutes les normes, entre guillemets, européennes, voilà, et françaises, qui sont appliquées même à la lettre, j'ai envie de dire. La seule différence, c'est que ces vaches-là n'ont pas d'accès forcément à l'extérieur pour aller au pâturage, pour aller dehors.
Oui, c'est quand même une différence essentielle. Donc, pour vous, ces instruments de mesure ne suffisent pas à définir un véritable bien-être animal.
Non, tout à fait. Par contre, je pense que ça évolue beaucoup. Dernièrement, je vends mon lait chez une grosse entreprise, je ne sais pas si je peux le dire, donc c'est Lactalis. Si. Lactalis, donc le siège est basé à Laval, c'est le géant de l'industrie laitière. Il n'y a pas plus tard que 3 semaines, j'ai eu une conversation avec des dirigeants de l'entreprise qui sont de plus en plus conscients de ces aspects-là de bien-être animal, de pâturage. Et eux-mêmes souhaitent communiquer sur les faits que les vaches aillent au pâturage. Et il est fort probable que dans les prochains mois, dans les prochains jours qui vont venir, qu'il va y avoir une charte, c'est-à-dire que l'entreprise va imposer ou proposer un partenariat avec les éleveurs en communiquant sur le fait que les vaches puissent aller au pâturage.
Vous pensez que ça pourra mettre un coup d'arrêt au développement de cet élevage industriel?
Je pense que ça sera un moyen de, bah déjà de communiquer, de donner une bonne image de marque pour ces industriels-là qui sont vraiment très très à l'écoute, j'insiste là-dessus, ils sont très à l'écoute des consommateurs.
Et les consommateurs maintenant ont cette exigence.
Ils ont de plus en plus cette exigence-là. Moi je vois à titre personnel sur mon exploitation, j'ai agrandi, c'est-à-dire j'ai remis en prairie des parcelles qui étaient cultivées en blé. Et dans mon village, j'ai beaucoup de mes voisins qui sont venus me voir en me disant c'est bien qu'on rentre du boulot, on voit les vaches dans les prés. Et pour nous, c'est bien de voir ça. Voilà. Au lieu de les voir, on voit plus en plus des fois des gros bâtiments où les vaches ne sortent quasiment plus. Et là, ils me disent, on rend du travail à la belle saison, quand on voit les vaches dehors, c'est un plaisir de les voir. Donc ça, c'est une grosse satisfaction pour moi. Et je pense que les consommateurs sont de plus en plus soucieux de ça.
Alors, Hubert Chargette, dans votre film, il y a une alternative aussi présente au type d'élevage que pratique le petit paysan, puisque un de ses amis, ou en tout cas une de ses connaissances, une de ses fréquentations, eh bien, sa ferme est totalement robotisée. Alors, décrivez-nous cette ferme et pourquoi est-elle présente dans le film ? Pourquoi ce choix ?
Évidemment qu'il y avait la volonté de présenter un peu différents types d'agriculture. Finalement, Pierre, lui, sa ferme à l'heure actuelle, c'est, on va dire que c'était une manière aussi de présenter un type d'élevage, ou en tout cas là il y a une espèce de frein d'impossibilité d'évolution. On va dire que le personnage de Fabrice, donc qui est l'ami, qui a une ferme beaucoup plus grosse, plus industrialisée aussi, c'était une manière de montrer finalement ce qu'on propose souvent aux éleveurs pour évoluer. C'est vrai que souvent, ce qu'on propose aux jeunes éleveurs, aux jeunes, c'est-à-dire, quand en gros, ils reprennent la ferme de leurs parents, c'est, c'est de plus en plus compliqué, mais ce qu'il y a de mieux à faire, c'est s'agrandir. Et alors qu'il y a certainement d'autres choses à faire. Enfin, monsieur en est la preuve. Et en fait, ils écoutent ce qu'on leur dit, tout simplement. Donc voilà, ça me permettait aussi d'aborder ça. Après, ce qui était hyper important pour moi, c'était qu'il n'y ait pas de manichéisme et qu'on ne se dise pas, ça ne m'intéresse pas de dire les petits paysans c'est bien, les gros paysans c'est pas bien. C'est beaucoup plus complexe que ça et la responsabilité, elle est collective en fait. Et en effet, on parlait de consommateurs aussi tout à l'heure, c'est vrai que c'est eux qui font bouger les choses.
Ils doivent jouer un rôle.
Bien sûr.
Dans un entretien que vous avez donné à propos de ce film, vous dites que dans la ferme avec robots, tout est automatisé. Et vous nous révélez ceci, je vous cite. « Je connais une exploitation comme ça, où on leur met la radio avec RTL2, 24 heures sur 24, parce que le bruit attire les bêtes. La radio est près du robot qui leur donne à manger et qui les trait. » Et vous semblez quand même assez pessimiste, puisque vous dites aussi, un peu plus loin, « Bientôt, les exploitations à taille humaine, comme celle de mes parents, vont disparaître. » Et donc, c'est comme si l'avenir était à cette exploitation-là. Et là, ça fait peur, parce que nous, êtres humains, nous sommes envahis par le bruit, le silence disparaît. RTL2, ça évoque la musique d'ambiance absolument partout aujourd'hui, dans les cafés, dans les halls d'ascenseurs, etc. Dans les cafés, on est obligé de supplier pour qu'on mette la musique un peu plus bas. Quelquefois, on se fait virer du café ou du restaurant parce qu'on a osé émettre cette exigence insensée. Et se dire, les pauvres vaches qui, en plus de ça, sont obligés de se taper RTL2 24 heures sur 24, mais c'est un cauchemar. Hubert Charuel.
Oui, alors en plus, c'est vraiment surréaliste quand on visite ce qu'en effet, un robot, c'est comme il dit dans le film, c'est-à-dire c'est H24, c'est 24 heures sur 24. Donc quand on arrive pour visiter la ferme à 23h30, il fait nuit, il y a quand même du silence absolument partout dans la campagne.
Partout,
et d'un coup, il y a cette espèce de haut-parleur qui diffuse RTL2, qui sort de nulle part avec des néons très très tungstène, très orangés partout. On se dit, wow, mais là, je suis dans un autre univers, clairement. Mais comme je le dis aussi, c'est juste parce que finalement, ça suscite la curiosité des animaux, qui est finalement un attrait particulier par la musique.
Peut-être aussi qu'à un moment donné, elles en ont marre, mais que...
Ouais. Mais surtout que c'est près du robot qui les nourrit, donc... Ouais.
Vincent,
moi sur mon exploitation, les vaches ne sont privées de radio parce qu'il n'y a pas de radio sur mon exploitation. C'est plutôt le chant des oiseaux quand elles sortent au pré.
Et privées de radio, elles ne semblent pas s'en porter mal.
Elles ne semblent pas montrer de signes extérieurs de mécontentement. En tout cas, non. Je pense que la radio, c'est un choix d'éleveur. Il y en a beaucoup qui disent que ça permet, quand il y a un bruit continu, ça évite qu'elles soient apeurées aussi. Et après, je pense qu'il y a aussi l'éleveur qui a le plaisir d'entendre peut-être de la musique quand il travaille ou ses activités, etc.
Ah oui.
Voilà. Après, c'est un choix d'éleveur.
Il la laisse la nuit aussi quand ils sont plus là.
Ouais.
Il la laisse la nuit.
Je crois. Je voudrais pas dire le bêtise.
La nuit, les vaches, normalement, dorment quand même. Ouais. Et moi, j'aurais du mal à laisser du bruit, enfin, la lumière et la radio toute la nuit.
Alors, maintenant, je voudrais aborder une autre question. La cause animale est très présente dans notre société. Elle est défendue par des associations qui font des actions très spectaculaires. L214, on les connaît, ils ont montré des images de maltraitance atroce dans les abattoirs, mais aussi 269 Life, Libération Animale, qui eux font des opérations coup de poing dans les abattoirs pour sauver des animaux. Bon, je vous interrogerai sur leurs objectifs, sur ce que vous en pensez, l'un et l'autre, mais L214, ils militent pour une sorte de conversion radicale des consommateurs, justement. Ils disent, il faut choisir non pas simplement le végétarisme, parce que on ne peut plus choisir de tuer les animaux pour manger, mais même le véganisme, parce que on ne doit pas non plus utiliser les produits laitiers. Et là, je voudrais vous interroger sur ce thème précis, Vincent de Largillière, avant d'en venir à la question plus générale de ce qu'il croit bon appeler la libération animale. Parce que ce que disent les anti-végétariens, c'est qu'on ne peut pas distinguer l'industrie laitière de celle de la viande. Pour donner du lait, une vache doit d'abord donner naissance à un veau. Il faut ensuite les séparer rapidement l'un de l'autre afin de récupérer le lait de la mère. Une partie des veaux femelles deviennent des génisses, puis à leur tour des vaches laitières. Les autres, ainsi que l'immense majorité des jeunes mâles, sont envoyés à l'abattoir au bout de quelques mois. Ne pas les tuer entraînerait en effet des dépenses colossales et mobiliserait des surfaces agricoles gigantesques pour le pâtirage ou le fourrage, car vaches et taureaux peuvent vivre jusqu'à 25 ou 30 ans. Alors, comment réagissez-vous et quelle est votre pratique? Quelle est en tout cas, votre réponse à cette critique et quelle est votre pratique, Vincent de Largillière?
Moi, en tant qu'éleveur, je pense que déjà dans mon entourage, j'ai des amis qui sont végétariens. Je respecte leur choix d'alimentation, tout à fait, il n'y a pas de souci. Je pense que ces associations-là vont très très loin. Moi-même, j'ai aussi été choqué par certaines vidéos dans les abattoirs, des choses comme ça. Même en tant qu'éleveur, je reconnais que j'étais choqué de voir ces vidéos-là. Après, est-ce que ces vidéos-là ont été forcément tournées en France ou des fois peut-être à l'étranger aussi, où il y a des pratiques qui sont peut-être pas acceptables?
Non, mais je n'interrogeais pas simplement là-dessus. C'est-à-dire que vous êtes producteur de lait.
Oui.
Est-il vrai, effectivement, que pour produire du lait, on est obligé de séparer le veau de sa mère, et donc on garde les génisses éventuellement, et les veaux, on est obligé de les faire abattre.
Oui, évidemment.
Est-ce que c'est ce qui se passe?
C'est effectivement ce qui se passe. Après, il faut savoir qu'il y a des animaux, des fois les petits veaux, moi je les laisse entre 24 et 48 heures avec leur mère, pour que les veaux boivent leur mère. Il faut savoir qu'il y a des mères aussi, des fois, qui ne s'occupent pas de leurs petits. Donc, c'est-à-dire que si l'éleveur, on n'était pas là pour s'occuper des veaux, il y a une partie qui, de toute manière, mourrait. Donc, on est là aussi pour s'en occuper et pour les nourrir. Donc, et après, effectivement, le lait part. On vend le lait pour l'industrie laitière.
Et donc, les veaux, vous ne pouvez pas les garder.
On ne peut pas les garder. On en garde une partie. Moi, il y a environ 30% des animaux qui sont réformés, des vaches, et une partie qui sont élevées, effectivement, pour remplacer ces animaux-là. Le fait aussi de les séparer, ça me permet aussi un meilleur contact entre moi et les animaux, et ça les rend beaucoup plus dociles aussi.
Donc vous avez connu ça aussi quand dans votre enfance, c'est-à-dire les veaux, on ne les gardait pas.
Les veaux, on ne les gardait pas. Non, les veaux mâles,
on
ne les garde pas. Ouais.
Oui, donc on est obligé de s'en défaire.
Exactement, mais ça justement, moi je vais même la citer ma mère là-dessus, où finalement, là il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer vraiment, puisque moi, je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'aurais pas pu faire ce métier aussi. C'est-à-dire devoir faire des vaches de réforme, se séparer des veaux, envoyer des vaches à l'abattoir. Moi, ma mère avait de plus en plus de mal à le faire à la fin. Et je crois que là-dessus, il y a quand même une espèce de chose qui est en train de changer
au niveau du bien-être. C'est plus difficile.
C'est de plus en plus difficile. On consomme aussi de moins en moins de viande. Nous, hein, je parle de mes parents, de moi, oui, alors j'ai grandi là-dedans. Et en effet, il y a un truc sur la conscience animale. Enfin voilà, sur le spécisme, en tout cas, qui prend la place et qui nous touche. Et moi, je pense que oui, en effet, c'est triste. J'ai grandi là-dedans et en même temps, aujourd'hui, je me dis aussi, ça me pose problème en fait d'envoyer.
Ces
veaux à l'abattoir, ouais.
Oui, mais d'un autre côté, ces veaux, il y aurait, comme je vous le disais, il y aurait aucun moyen de les garder. Ça coûterait trop cher, ça prendrait trop de surface. Bon, ça ne serait pas possible.
Pas forcément. Enfin, sur mon exploitation, il y a une partie des veaux mâles que je garde, qui sont des bœufs, qui deviennent des bœufs, qui me servent en pâturage, donc des prairies qui sont humides, qui sont vallonnées, qui sont pas mécanisables, où je ne pourrais pas faire de céréales. Et ça, ces animaux-là me permettent de valoriser ces espaces-là aussi.
Mmh. Voilà. Oui, donc vous en gardez une partie et les autres, il n'y a pas moyen de toute façon.
Les autres partent des fois à l'export aux Pays-Bas, enfin ça dépend des débouchés qu'il y a. Ça part pour faire des veaux de boucherie qui sont valorisés évidemment en viande. Oui. Ils ne sont pas abattus immédiatement, ils sont engraissés, ils sont abattus à 3 mois, 4 mois en fonction des débouchés.
Alors maintenant je voudrais élargir la question parce que je vois un paradoxe quand même chez les défenseurs de ce qu'ils appellent la libération animale. Et là, je voudrais avoir votre avis à l'un et à l'autre. D'abord, ils ne s'opposent pas simplement à l'élevage industriel, mais à toute forme d'appropriation, parce que la domestication, pour eux, relève de l'exploitation. Ils pensent un peu dans les termes d'une sorte d'antiracisme élargi. Hein. Il faut libérer les animaux, comme les Noirs se sont émancipés, comme les femmes se sont émancipées. Alors, cette analogie ou cet élargissement est problématique, notamment en ceci, que quand les Noirs se libèrent et obtiennent des droits, ils ont des droits. Mais si on libère les animaux de toute domestication, ils perdront le droit de vivre, parce que les animaux de rente sont des animaux, effectivement, qui servent les hommes. Oui. Et s'ils ne servent plus les hommes, je ne vois pas comment ils pourraient exister, c'est-à-dire on va pas. En plus, ces animaux-là ne sont pas forcément faits pour la liberté. Ce ne sont pas des prédateurs, ce sont des proies. Les hommes les protègent. Ils ne sont pas constamment aux aguets, grâce à la présence des hommes. Et quand on lâche les loups, les bergers ne sont vraiment pas contents, pour des raisons, parce que tout d'un coup, c'est leur devoir de protection qui est en quelque sorte mis en cause par l'Union européenne ou par les normes qu'elle impose. Mais donc je vois là un paradoxe de la libération animale. Si en effet on va jusqu'au bout du refus de la cruauté dont vous parlez, Hubert Charuel, alors il n'y aura plus d'animaux. Ils sont tellement libres qu'ils auront cessé d'exister. Donc comment faire pour trouver une véritable solution?
Alors moi, ce qui me pose problème, c'est plus l'industrialisation et le fait que ce soit énormément d'animaux abattus. Moi, je vais juste prendre un exemple. Nous, pendant longtemps, on a pu faire ça, c'est-à-dire de tuer une vache pour la manger. On était une famille de 3 personnes, une vache, on en avait pour 1 an. Aujourd'hui, je pense que le ratio, il n'est pas le même non plus. Et après, là-dessus, moi, j'ai presque moins de problèmes. C'est-à-dire que moi, je veux voir les générations futures. C'est-à-dire, c'est peut-être elles aussi qui vont faire bouger les choses. Et peut-être que moi, mes enfants, je vais tellement aussi, tellement les éduquer aussi dans une forme de respect de l'animal que eux, à un moment, ça leur paraîtra complètement impossible de voir tuer un animal pour le consommer, en gros pour le manger. Mais moi, c'est sûr que je peux comprendre ceux qui sont contre justement l'abattage d'animaux, l'exploitation. Mais moi, si ce n'est pas de manière démesurée, j'accepte la mort d'un animal. Ce que j'accepte pas, c'est espèce de détendue totale, justement, d'avoir des millions et des millions de bêtes. Et aussi, enfin voilà, là il y a tout un pan aussi, je pense, qui est abordé peut-être dans d'un point de vue écologique. On sait très bien aussi que l'élevage industriel de bovins, enfin, c'est une calamité en fait. Ce n'est pas possible, ça prend beaucoup trop de ressources en consommation d'eau, et enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui sont voilà, de manière générale, en tout cas, pour moi, je me pose beaucoup de questions, en tout cas, sur l'avenir. Et que ce soit justement les animaux et aussi ce qu'on fait à notre planète, quoi. Donc moi, c'est plus ça qui me pose vraiment problème, en fait.
Moi, je rebondis un peu sur vos propos. Je pense que les bovins qui valorisent les prairies, qui valorisent l'herbe, ce sont de toute manière des surfaces qui ne seraient pas possible de valoriser pour faire des céréales, donc ils consomment pas d'eau, d'engrais, beaucoup moins d'engrais, beaucoup de choses comme ça. Et l'élevage à base d'herbe traditionnelle, comme on pouvait le faire il y a plusieurs années, a pour moi un grand avenir. Les prairies, c'est aussi un moyen de stocker du carbone, c'est un moyen de limiter le réchauffement climatique. L'élevage n'est pas non plus forcément tout n'est pas négatif dans l'élevage.
Non, tout n'est pas négatif dans l'élevage, mais ce qui me frappe dans ces mouvements de libération animale, c'est qu'ils sont animés plutôt par des jeunes urbains.
Oui.
Et donc, ils n'ont pas vécu avec les bêtes, et on a l'impression qu'ils peuvent se passer des bêtes. C'est-à-dire qu'une fois que l'humanité aura atteint le stade qu'ils souhaitent, qu'elle aura cessé d'être carnivore, et en même temps de se nourrir de produits laitiers, bien peu leur importe que ce soit au prix de l'existence même des animaux, parce que l'humanité sera devenue bonne dans un monde sans animaux domestiques. Puisque la domestication, c'est l'exploitation. Et une des raisons pour lesquelles je vous ai invité, c'est que vous avez l'un et l'autre connu, et vous toujours, un autre rapport aux bêtes. Voilà. Et votre voix, il me semble que dans ce grand moment de réflexion sur la manière dont nous traitons les animaux, eh bien, votre voix doit se faire entendre, parce que vous avez quelque chose à dire du lien avec les bêtes. Et ce lien, quand même, doit être préservé. Ce serait un grand paradoxe de rompre tout lien au nom de la libération animale, et de les faire disparaître, précisément pour mieux pouvoir les libérer.
Dans un monde où on peut imaginer qu'il n'y aurait pas d'élevage, est-ce qu'on peut imaginer les régions montagneuses sans bovins? On voit que c'est des zones où il y a, par exemple, on va faire du ski, les alpages, les bêtes, il y a un équilibre qui se passe aussi entre l'homme, les activités humaines et puis l'entretien de ces espaces naturels-là. Est-ce qu'on peut imaginer que tous ces espaces-là ne soient pas valorisés?
Alors aussi, une autre question que je voudrais poser, Vincent de l'Argilière, est-ce qu'on peut imaginer ces animaux libres, est-ce que ça a un sens? Est-ce que leur vie peut avoir un sens hors du rapport avec les hommes? Parce que quand j'étais venu voir votre ferme, vous m'aviez dit que les vaches dormaient en cercle, en rond, même pour parce que ça a une sorte d'atavisme. Pour se protéger du prédateur éventuel. Donc,
oui, tout à fait. Même si on a domestiqué nos animaux, les vaches, elles ont conservé un comportement un petit peu sauvage, comme vous dites. Elles se couchent toujours en rond pour se protéger les unes aux autres. Quand je laisse les veaux, j'arrache pas les veaux à la naissance. Quand on laisse les veaux, s'il y a un veau, on s'approche, le veau se lève et se met à meugler. Tout de suite, il y a une réaction du troupeau qui se met autour du veau, justement pour le protéger. Donc il y a toujours un comportement proche de la nature.
Un comportement proche de la nature, ce qui veut dire que l'homme a un rôle à jouer pour ces bêtes-là, précisément.
Pour maintenir, je pense qu'on est là pour maintenir l'équilibre, un équilibre entre nos animaux et puis nos activités.
Oui. Et comment, Hubert Charuel, vos parents ont-ils réagi quand ils ont vu, participer à ce film, et ensuite, quand ils l'ont vu? Est-ce qu'ils ont été honorés, contents? Est-ce qu'ils se sont dit que c'était votre manière à vous de poursuivre dans cette voie, alors même que vous avez renoncé à être un paysan et que vous êtes même, je crois, le premier fils de paysan diplômé de la FEMIS? On dit un des premiers, en tout cas.
Ça c'est vous qui me l'apprenez.
C'est ce que j'ai lu, peut-être pas.
Mais en tout cas, eux, non, eux, ils ont tellement fait partie de l'aventure, en fait. Ils se sont mis à jouer dedans. Ils avaient déjà été entraînés dans mes courts-métrages et tout ça, donc ils avaient déjà eu une tout petit peu l'habitude, mais au début, ils n'étaient pas complètement objectifs sur le film. C'était très difficile pour eux de le juger. Eux, ils ont découvert le film au Festival de Cannes. Voilà, ma mère a pleuré. Alors du coup, je lui dis waouh, t'es ému. Elle m'a dit mais non, c'est parce que j'ai compris que la ferme s'était terminée. Forcément, elle le voyait en image là cette fois-ci. Voilà, mon père m'a dit je te fais la bise, mon fils. Donc on est au maximum de l'émotivité pour mon père.
Et votre grand-père est présent dans le film.
Et mon grand-père joue dans le film aussi.
C'est le vieil homme.
Et mon cousin aussi joue dans le film aussi.
Ah oui. Et voilà. Votre grand-père aussi.
Ouais, mon grand-père a une nouvelle carrière s'ouvre à lui à 90 ans. Oui, c'est lui qui joue dans le film aussi. Ouais. Il a un rôle assez important d'ailleurs.
Mais pour vous, en tout cas, Vincent de l'Argilière, les choses ne sont pas terminées. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous allez passer d'ici quelques temps au bio. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Quel changement cela va-t-il introduire dans votre exploitation?
Oui, c'est un projet à moyen terme. Passer au bio, ça se fait pas en claquant des doigts. Il faut adopter toute façon de gérer son exploitation, de gérer la ferme, de produire les fourrages d'une manière différemment. Je suis déjà très proche du cahier des charges bio. Par exemple, en antibiotiques, en traitement pour les vaches, je respecte déjà actuellement le cahier des charges sans être en filière biologique. Il y a ma laiterie qui cherche activement aussi. Il y a une demande des consommateurs pour les produits biologiques. Peut-être qu'ils vont faire venir du lait de l'étranger, d'autres pays européens. Et je me dis, j'ai une usine qui est à ma porte. Et il y a peut-être une opportunité, vu les caractéristiques de mon exploitation, où il y a beaucoup de prairies qui me permettraient de le pas franchir pour aller vers le bio et serait très, très proche.
Quels sont les changements? Qu'est-ce que ça veut dire, le bio, d'abord?
Le bio, c'est, pour être très succinct, c'est on s'interdit l'utilisation d'engrais de synthèse, donc l'ammonitrate, l'engrais azoté. On s'interdit évidemment tous les produits de phytosanitaires de synthèse. Dernièrement, on a beaucoup entendu parler du glyphosate, par exemple. Tous ces produits-là, tous les produits synthèse sont strictement interdits. Pour les traitements, pour les animaux, pour les vaches, on privilégie beaucoup la prévention. On utilise beaucoup les méthodes homéopathiques, l'aromathérapie, toutes des méthodes de médecine douce, entre guillemets. Et voilà, il y a un cahier des charges européen qui est très, très, très contrôlé et qui garantit un cahier des charges. Voilà.
Alors ce cahier des charges, mais est-ce que ça ne vous conduira pas à vendre le lait plus cher, parce que l'argument de ceux qui choisissent un autre type d'élevage, et notamment l'élevage industriel, c'est qu'au bout du compte, ça coûte moins cher. Alors s'il est vrai que des consommateurs maintenant exigent le pâturage, ils veuillent aussi les produits les plus bons marchés, et c'est ce que les grandes surfaces imposent, quoi.
Oui. Les consommateurs, le marché agricole, c'est comme un marché de n'importe quel secteur. Actuellement, il y a une forte demande des consommateurs, donc les prix se maintiennent. Après, dire qu'on va gagner plus en passant en bio qu'en conventionnel, en restant en agriculture conventionnelle, c'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident parce que sur l'exploitation, on produit moins. On est payé un petit peu mieux, mais on produit moins. Ah, au final, moi, j'ai échangé avec mon comptable, là, qui fait mes documents comptables, qui lui suit des exploitations en agriculture biologique. Il me dit la rentabilité n'est pas forcément plus élevée. On va pas gagner plus sa vie, mieux sa vie en passant en bio. Par contre, on adopte une autre façon de produire. Qui, moi, me plaît beaucoup.
Et est-ce que vos bêtes, ils trouveront aussi leur avantage?
Dans mes conditions, sur mon exploitation, où les animaux vont déjà beaucoup en prairie, j'ai envie de dire, la marche est très, très faible. Un élevage industriel, comme tout à l'heure, M. Charvel parlait de son collègue, peut-être avec l'élevage robotisé, où là, il y a l'ensilage, il y a beaucoup d'achats de compléments. J'imagine qu'il y a beaucoup d'achats de compléments à l'extérieur. La marche serait, à mon avis, beaucoup plus forte. Et ça sera beaucoup plus difficile, dans son cas, à passer à l'agriculture biologique. Dans mon cas, mes animaux produisent déjà très, très peu de lait. Enfin, entre 5 et 6 000 litres de lait. Dans un élevage robotisé, c'est très proche des 10 000 litres. Une vache, par an, c'est 10 000 litres. C'est quasiment double de chez moi. Donc j'insiste bien, dans mes conditions à moi, la marche est vraiment très, 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 très faible pour passer à l'agriculture biologique. Et j'insiste aussi, il y a l'industriel auquel je vends mon lait, il en a besoin. Cet été, j'ai eu un échange avec le directeur de l'usine qui m'a dit, dans toute ma carrière, c'est quelqu'un qui est proche de la retraite, j'ai refusé des clients parce que j'avais pas assez de marchandises, j'avais pas assez de produits laitiers biologiques.
Et voilà. Hubert Charuel, y a-t-il des moments dans votre vie, peut-être quand vous avez tourné le film, parce que vous êtes revenu sur l'ancienne exploitation de vos parents, je crois, où vous regrettez de ne pas avoir continué dans cette voie, de ne pas avoir choisi le métier de paysan, ou vous sentez-vous soulagé, heureux de faire autre chose, de voir vos horizons s'élargir? Hubert Charuel.
Non, je ne regrette pas de ne pas avoir repris la ferme. Non, par contre, c'est une question que je me suis posée avant, en fait. Et aussi, je pense que je portais plutôt, une forme de culpabilité de ne pas avoir repris la ferme de ses parents, et en effet de ne pas avoir repris cette ferme. Et pour moi, ce film, je crois que c'était une manière de reprendre à ma manière, et puis en même temps de se débarrasser un peu de cette culpabilité.
Oui, parce que vos parents, finalement, vous êtes fils unique, je crois.
Oui, je suis fils unique.
Donc ils n'auront pas de successeur.
Il n'y aura personne.
Et eux-mêmes sont tristes de cela, ou très heureux finalement que vous soyez devenu cinéaste et que votre premier film, en plus, leur rende cet hommage.
C'est passé. C'est-à-dire que mon père a toujours été très détaché de ça. Mon père, lui, on avait vraiment marre des vaches. Il n'en pouvait plus. Donc, il était très content de prendre sa retraite.
Il avait marre des vaches.
Ouais, il n'en pouvait plus. Il en avait marre. Non, mais c'est hyper contraignant quand même. Hein. C'est vrai que là, si on.
Oui, c'est ça. C'est 7 jours sur 7.
Oui. Mon père, lui, il aimait bien les vaches, mais c'était pas sa passion. Ça, c'était la passion de ma mère. Mon père, lui, est passionné de chevaux. Donc, voilà. Donc, il a plein de chevaux et très heureux comme ça. Ma mère, elle, c'était sa passion, les vaches. Et elle, je pensais que c'est très très dur, et finalement, en effet, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui elle est aussi contente d'avoir un peu arrêté. Ouais, voilà.
Et vous, ça reste votre passion, les vaches, Vincent
Darginier ? Moi, ça fait 12 ans que j'ai repris l'exploitation, et si je devais rechoisir le métier que je ferais, je n'hésiterais sans hésiter. Avant de reprendre l'exploitation, j'ai eu une expérience, j'ai travaillé dans le monde de l'industrie laitière, j'ai travaillé en laiterie, et tous les voisins, mes parents, il me disait, ton fils, il va goûter au week-end, il va goûter aux vacances, jamais il reviendra sur la ferme. Et je suis revenu, et je peux vous dire que depuis 12 ans, tous les matins, je me lève, j'adore mon métier.
Vous adorez votre métier, en dépit des contraintes.
En dépit des contraintes, j'accepte les contraintes. On a des contraintes, mais on a aussi des gros avantages. On travaille avec la nature. Là, je suis venu à Paris aujourd'hui, c'est un rythme que je ne pourrais pas supporter. Oui. J'ai l'impression de vivre dans une petite bulle. Quand je suis sur ma ferme, je suis dans une petite bulle. D'aller le matin à voir le soleil se lever en allant chercher les vaches, pour moi, ça n'a pas de prix.
Et vous n'êtes jamais lassé par vos bêtes?
Non, jamais. Jamais. Absolument pas. C'est un plaisir de faire naître une vache, d'avoir un veau. C'est une passion pour moi.
C'est la plus belle des conclusions. Merci beaucoup, Hubert Charuel. Et merci Vincent de Largillière. Je vous ai dit merci au début, je vous dis merci à la fin. Je rappelle le titre de votre film, magnifique, Petit Paysan, qu'on peut voir encore dans certaines salles de province, et qui sera, vous me l'avez dit, disponible en DVD au mois de janvier 2018. Voilà, et je répète, c'est un très beau film. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Que peut l'école ?» et mes invités seront Jean-Michel Blanquer et Augustin Dumière. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Auchard et Milena Hellig. À la technique aujourd'hui, Manuel Couturier, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.